Slate Podcast.
Connaissez-vous la fable de la grenouille ? Voici comment la raconte Wikipédia. Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la trempe dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée. Agathe est très impressionnée par son professeur de yoga. D'abord distante, puis fascinée, elle le laisse entrer dans sa vie, petit à petit. Mais elle ne se rend pas compte que le bain dans lequel il la plonge devient de plus en plus chaud. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert épisode 141, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire d'Agathe a été recueillie par Sarah Koskiewicz.
Il y a 6 ans, un copain me propose d'aller faire un cours de yoga parce que le prof est son cousin et je cherche à faire du sport. Et là, j'arrive dans la salle, on n'est pas beaucoup et je vois le prof, plutôt mignon, assez sûr de lui, avec de l'assurance et qui avait l'air de maîtriser son sujet. Ce prof ressemble beaucoup à un ex que j'ai eu et je trouve ça rigolo. Donc je me dis, finalement, je vais venir au cours de yoga. À la fin du cours, on dîne ensemble dans un truc à côté avec mon pote et son cousin, donc le prof de yoga. Et on se revoit, enfin il me raccompagne et on se revoit tous les trois. En dehors de ses cours, on sympathise. Au bout de 1 ou 2 semaines, je me dis que le prof n'a toujours pas vu mes signaux que je lui envoyais. D'habitude, on m'invite à boire un verre, mais lui, il avait l'air de s'en taper royal. Donc, je force un petit peu les choses. Après le cours, je sais qu'on va dîner ensemble et je propose qu'on boive un verre. Chez l'un ou chez l'autre, et finalement, on va chez le prof de yoga. On arrive assez tard, et puis dans la conversation, en buvant un verre, je l'embrasse. Enfin, c'est moi qui fais le premier pas, et voilà, notre histoire commence comme ça. Je bosse énormément, je viens d'avoir mon diplôme, j'ai pas de contraintes, on finit tard le soir, je me libère juste un jour par semaine pour aller à ce cours de yoga pour voir mon copain, parce que sinon j'arrive pas trop à le voir. Le yoga, c'est pas trop ma tasse de thé, d'ailleurs ça l'agace un petit peu parce que il sait que je viens pour lui et pas pour le yoga, donc ça l'agace, mais bon... Alors, il me propose, ça s'appelle une masterclass, ça a lieu un week-end. Il me dit que il y a le prof de yoga, de tous les profs de yoga de leur asso, qui vient sur Paris, que c'est génial, que je vais le rencontrer. Et lui, de toute façon, il y va. Donc moi, j'y vais parce que j'ai envie de partager quelque chose avec mon copain, de son univers, le yoga. Et aussi parce que c'est le week-end, je bosse pas, ça me permet de le voir aussi. On s'y rend ensemble. Moi, je règle par chèque. La personne qui prend les chèques nous propose de régler plus par espèce, mais si c'est pas le cas, elle ira échanger ce chèque contre de l'espèce pour payer ce chef des profs de yoga qui doit récupérer tout l'argent à la fin de cette masterclass. On est à peu près 15-20, on n'est pas trop trop nombreux, et le type est aussi âgé que nos parents. Il est un peu... moi je le trouve orgueilleux, donc j'ai un mauvais a priori. Après, il a beaucoup de charisme, mon copain m'en avait parlé, et il avait l'air de l'admirer aussi. Enfin, il me dit que c'est son père spirituel. Alors, il a beaucoup de prestance. Il y a que lui qui parle, d'ailleurs, presque. Il pose des questions. C'est une sorte... il déballe ses connaissances sur la spiritualité entre les sessions de yoga, de méditation. Très vite, je m'installe chez mon copain. Lui, il donne des cours de yoga gratuitement pour l'association. Et il vit sur son prêt étudiant. C'est sa mère qui lui paye son loyer. Donc au fur et à mesure, il y a des Skype entre tous les profs de yoga de cette association, avec le leader qui est là aussi et qui les lead. Hein. Il est question de création de studios de yoga, de aussi cours sur la spiritualité, parce qu'ils lisent des livres dessus. Il y a des questions-réponses. Et moi, je trouve ça très vite un peu malsain. C'est moi qui appelle ça malsain auprès de mon copain, parce que j'ai l'impression qu'il y a du chantage affectif de fait par ce leader. Et il s'énerve. Donc, il tape des petites crises de colère. Et je trouve ça vraiment, vraiment très louche. En tout cas, j'apprécie pas du tout qu'on parle comme ça à mon copain. Quand je lui fais remarquer, il me dit oui, mais il est comme ça. Il va dans le sens du leader. Moi, j'ai pas trop mon mot à dire. J'apprends par mon copain qu'il n'y a pas d'association officielle en France et qu'elle est basée à Londres. Il n'y a pas d'impôt payé en France. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de cash dans l'histoire. Ils doivent des impôts à Londres. Le leader demande à tout le monde de sortir de l'argent de sa poche, donc à tous les profs de yoga faisant partie de l'association. Le père de mon copain, qui fait aussi partie de l'association, mais pas en tant que prof de yoga, plus en tant qu'étudiant spirituel, n'est pas très content et envoie un mail au leader comme quoi il pourrait faire une masterclass pour payer ses impôts et que c'est pas aux gens qui travaillent déjà gratuitement pour lui à sortir l'argent de leur poche. Mon copain et son père sont virés de l'association. Mon copain est vraiment attristé, mais bon, je suis là pour lui et on peut commencer notre vie à deux. Je tombe très vite enceinte. Juste après l'accouchement, on se marie. Pour moi, c'était important. Et puis, pour le baptême de notre fille, fallait être mariée. Donc, on est très vite mariée et femme. Et puis, retour de couche, j'ai un deuxième bébé dans la foulée. Donc, tout s'accélère. On est très centré sur nous, avec deux bébés en bas âge. Voilà, c'est un peu la course. On travaille tous les deux. C'est la vie de nouveaux parents. On déménage deux fois. Mais plus on avance et moins on se parle et plus on a de soucis financiers dus au coût des enfants. Et notre couple se dégrade. Puis mon mari pense toujours à son asso de yoga. Il m'en parle. Moi, je m'énerve. Je lui avais fait promettre de plus du tout aller les voir pour ne pas mêler nos enfants à ça. Et un jour, je vais en vacances, mon mari travaille, donc je vais en vacances en famille, et je m'aperçois qu'il a été voir les yogis de l'association, donc derrière mon dos. Et je décide de pas trop lui en parler pour éviter une énième dispute. Et puis au fur et à mesure, la situation de couple se dégradant de plus en plus, et je décide de lui lâcher un petit peu la grappe avec cet asso de yoga. Je me dis que j'ai été un peu sévère, qu'il faut que je pense à son épanouissement personnel aussi, c'est sa passion. Donc je le laisse. D'abord, il va à des dîners qui sont organisés. Il est très très content de les retrouver parce que il y a celle qu'il considère comme sa sœur, il y a de nouvelles personnes et puis il me dit que la notion de groupe c'est très important pour lui et c'est vrai que tous ses amis n'habitent pas à Paris. Il est un peu tout seul, il télétravaille. Donc je me dis bon, ça peut que lui faire du bien et ça ne peut que faire du bien à notre couple si lui s'épanouit de nouveau dans le yoga. Je lui fais promettre que s'il y a des histoires un petit peu louches d'argent, qu'il m'en parle avant. Comme ça, on est deux à décider, sachant que on a un compte joint maintenant. Cet argent, c'est le nôtre. Il me répond oui, oui, t'inquiète pas, il me rassure. Donc je me dis qu'à partir de ce moment-là, il y a pas de souci. Donc il commence à les voir petit à petit, à refaire des masterclass. Et un jour, il y a une masterclass en, en Normandie. Et au dernier moment, ma mère me propose de garder les enfants. Moi, je suis sur place et je me dis, bon, ben, je vais faire du yoga. On en fait tous les deux. Je me rends compte que on a quelque chose à partager maintenant, qu'on a fait cette masterclass tous les deux, on en discute. Du coup, la communication se crée entre lui et moi, je suis ravie. Je me dis, mais si ça ne tient qu'à ça, il n'y a pas de souci, je fais du yoga, quoi. On commence... à faire des masterclass ensemble, c'est le printemps, donc il y en a tous les week-ends, un peu partout en France. On se déplace, ma famille garde les enfants, ça nous fait des week-ends à deux avec ses copains à lui, Yogi. Donc un jour, il revient d'un dîner de cette association et il me dit il faut absolument qu'on donne des sous à la sœur spirituelle du leader, parce qu'elle est en Inde, tu comprends, elle travaille pas, tout le monde l'aide financièrement, on lui envoie des sous, enfin, à travers l'association. Moi, je pète un câble, je m'énerve. Donc, je réponds à mon mari, non mais tu te moques de moi, on met même pas de sous sur le livret de nos enfants, on va pas donner des sous à une inconnue. Donc, on se dispute, puis je décide de lâcher, je me dis, bon, finalement, ok, tu veux lui donner 30 euros par mois, on n'a qu'à lui donner 10 euros par mois, et puis comme ça, tout le monde est content, on trouve un compromis, et moi, tu me lâches la grappe, quoi. On arrête de se disputer pour pas grand-chose. Et puis, c'était pas prévu, mais moi, je tombe enceinte de notre troisième enfant, on décide de le garder. On a un petit peu peur des finances parce que ça s'est pas super bien passé à l'arrivée de la deuxième financièrement. On a peur pour le couple et mon copain va de plus en plus à ses trucs de yoga tout seul et moi je me sens un petit peu laissée à l'abandon. Donc ça bat encore un petit peu de l'aile, mais bon, on a un peu l'habitude, c'est les montagnes russes depuis quelques années. Donc je décide de contacter le leader qui est le père spirituel de mon mari parce que j'ai un peu tout essayé en plusieurs années où le couple battait de l'aile et c'est un peu mon joker. Je me dis que il doit bien connaître mon mari. Je sais pas trop ce que j'ai envie de chercher, mais j'ai envie de me confier et de trouver une solution pour rétablir le couple. Donc je lui envoie un message, je lui raconte... en quelques lignes, que j'attends rien de lui, mais que ça va pas bien avec mon mari, et que comme il le connaît très bien, peut-être qu'il aura une solution, peut-être qu'il a un autre point de vue que moi pour rétablir la situation, et que je me sens vraiment assez désespérée à ce moment-là. Et il me répond assez rapidement. Enfin, il va dans mon sens, il dit « ma pauvre, je comprends ». Mais parlons-en sur un autre canal, parce que comme ça, ton mari tombe pas dessus. On évite des crises internes, quoi. Je lui dis d'accord. Donc il me donne son numéro et puis on continue d'abord sur WhatsApp. Et il me dit, ça serait bien qu'on en parle de vive voix, que je te rencontre. C'est vrai que je te connais pas. Je connais très bien ton mari. Il me dit qu'il peut m'aider pour mon couple et qu'il fait ça pour mon mari parce que il a beaucoup d'affection pour lui et pour nos enfants. À cette époque-là, il y a un de mes ex qui me recontacte. On déjeune ensemble et c'est vrai que moi, je l'ai pas trop oublié. C'est encore resté très frais dans ma tête, surtout que dans mon couple, ça va pas bien. Il insiste pour que je vienne le voir en province. Et moi, quand je rentre de ce déjeuner, je suis dans tous mes états. Je me mets à pleurer. Je me dis que mon couple est mort, c'est fini. Je sais pas quoi faire parce que j'ai envie d'y aller. Pour moi, enfin, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc, pendant que je suis en train de pleurer sur mon lit, je reçois un message du leader qui me dit « Ça y est, je viens à Paris telle date, j'ai mon billet de train, je viens juste pour toi. » Et je lui réponds « Ah bah, tu tombes à pic. » Et il me dit « Je sais. » Avec un clin d'œil, un smiley clin d'œil. Je suis pas trop surprise parce que quand mon mari en parle, on a l'impression qu'il a beaucoup d'intuition, ce type, qui devine un peu tout et que... c'est des sortes de pouvoirs de yogi. Donc il me propose de le rejoindre à un restaurant le midi où il arrive, auquel je me rends. Il me dit de pas en parler à mon mari, qui risquerait d'être jaloux, et donc j'en parle pas. Bah là, je lui raconte tout. Il me pose des questions sur moi aussi, parce qu'il dit qu'il a envie de me connaître. Donc je réponds un peu vaguement, on va dire, parce que je le connais pas du tout. Il me pose des questions sur mes parents, donc je réponds vaguement. Il me pose des questions sur ma vie en général. Et il me dit que je peux lui faire confiance, voilà, qu'il est là pour moi et qu'il viendra de temps en temps me voir. Il me propose un autre dîner une semaine après. Je parle à ce moment-là de la situation avec mon ex, comme quoi je sais pas du tout quoi faire, je sais pas si je dois y aller ou pas, mais j'en ai très envie. Il me déculpabilise, il me dit « Ah, mais tu sais, mais surtout, tu divorces pas avec ton mari, il sera en mille morceaux si tu divorçais, va voir ton ex, profite, c'est pas grave. » mais lui dis pas, garde-le pour toi, c'est pour le bien de ton couple, pense à lui, pense à ton couple, pense à tes enfants. Et du coup, je me dis, j'ai envie d'y aller, ça va me faire du bien parce qu'à la maison, c'est tendu, on se dispute, au moins ça me fera un week-end. Suite au déjeuner, je prends la décision d'aller voir mon ex et je couche avec lui. J'ai quand même hâte de rentrer à la maison, donc dans ma tête, je suis assez contente parce que je me dis, c'est fini avec mon ex, je suis rassurée par rapport à mon couple. J'ai un peu plus confiance en ce leader. On commence à de plus en plus échanger par message. Et puis à chaque dispute avec mon mari, je vais lui en parler. Il me dit, c'est pas grave, respire, va faire une méditation, des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, je commence... des petites méditations de temps en temps, ça me fait du bien. On se voit à Paris pour dîner deux ou trois fois le soir. Et puis de plus en plus, finalement, je vais lui raconter ma vie, puisque j'ai confiance en lui. Il me dit « je suis ton confident, moi j'ai confiance en toi, est-ce que toi t'as confiance en moi ?» Il me propose un autre canal de discussion... qui juge plus safe encore. Et un jour où je vais au boulot, il me dit « Oui, alors, ici, c'est notre espace, tu peux me dire tout ce que tu veux, sens-toi libre de me raconter ce que tu veux, ça sortira pas d'ici, je suis là pour toi. » Et dans cet échange, il me demande « Est-ce que tu veux jouer ?» Et je lui réponds « Ça dépend à quoi ?» Parce que, moi, il me plaît pas du tout. Il a genre 55 ans, il est dégarni, bronzé. Enfin, c'est pas du tout mon type d'homme. Psychologiquement non plus, il me plaît pas. Même si j'ai l'impression qu'il a changé depuis, qu'il a gagné en maturité, en sagesse, parce que je le trouve plus orgueilleux comme avant. Et il répond « J'aime bien, tu sais lire entre les lignes, t'es intelligente. » Et moi, ça me flatte qu'il me complimente parce que, en effet, tous les yogiman là, de l'association, je les trouve pas très chuchutes, à part mon mari. Moi, je lui avais fait la remarque à l'époque. Enfin là, ouais, ça me flatte parce que je me dis « évidemment que je suis intelligente. Je suis pas comme les nanas qui étaient à la première masterclass avec des étoiles dans les yeux devant toi. Je me sens au-dessus du lot. » Il rajoute même que je suis pas comme les autres, que j'ai ouvert une porte qu'ils n'ont pas ouverte. Phrase que je comprends pas trop, mais je me dis qu'il a raison. Ça me donne plus confiance en lui encore parce que j'ai l'impression qu'il me connaît en fait. J'ai l'impression qu'il arrive à voir qui je suis sans que j'ai trop à lui dire. Donc il me fait comprendre qu'il travaille pour les services secrets. Lui, il dit les services. Donc oui, la DGSE ou la DGSI. Et pour moi, c'est crédible. Et il me dit, t'as le profil, t'es intelligente, t'as pas peur, t'as vraiment le profil pour en faire partie aussi. Quand il me dit ça, je suis super contente. Et moi, je me dis, ah génial, j'ai toujours pensé que j'avais le profil. Et il me dit, je vais te tester pendant 6 mois. Et si tu réussis les tests, bah là, on passera une sorte d'examen et je te dirai ou pas si tu l'as eu. Et puis si tu l'as pas, c'est pas grave, on aura tenté. Et le premier test, il me dit, mais il faut vraiment que j'ai la certitude que je peux te faire confiance. Or, tous nos messages, il faut pas que t'en parles à personne, même pas à ton mari. Et je me dis, ah ben, ok, j'ai 100% confiance en lui. Je me dis qu'il est dans les services parce qu'il arrête pas de me dire que l'association, c'est pas son truc principal, qu'il a un métier derrière. Parfois, il me dit, ouais, alors j'ai dit au yogi que là, je suis en période de jeûne, mais je pars en mission. Il m'envoie des photos de lui avec un masque, mais c'était avant le Covid. Et j'ai tellement confiance en lui que je commence à lui raconter toute ma vie. Et moi, ça me fait du bien parce que ça fait longtemps que je vois plus trop mes copines avec les enfants, que je suis au boulot mais que je bosse, que je vois quelques collègues mais je leur raconte pas ma life. Donc là, ouais, j'ai un super ami à qui parler et ça me soulage parce qu'il n'y a pas de communication avec mon mari et je lui raconte tout. Il me demande « Alors, t'as vu ton ex ?» Il me demande carrément des détails sur nos ébats. Que je lui partage, en fait, comme si je le partageais à une copine. Il me fait comprendre qu'un bon prof de yoga doit connaître son élève jusqu'au bout des doigts pour l'aider au mieux à s'élever. Et, bah, ça a du sens pour moi. Mon mari commence à voir que je suis tout le temps collée à mon téléphone. Et là, il s'énerve un petit peu parce que il voit que je parle à son prof de yoga. Et moi, je me dis à ce moment-là, le leader avait raison. Il m'avait dit de rien lui dire, de peur qu'il soit jaloux. Et en fait, ouais, il a raison, il est jaloux. Et donc, je fais un peu plus attention avec mon téléphone parce que mon mari va le dire au leader et le leader lui dit, fais-moi confiance. Donc mon mari ne dit plus rien, mais moi, le leader me dit « Fais un peu plus attention avec ton téléphone », ce que je fais. Donc je ne lui écris plus devant mon mari. Et un jour, je lui raconte que justement, quand je faisais mes études à New York, j'avais mon copain en France et qu'on s'écrivait des sextos pour entretenir la relation à distance. Il commence à me parler de tantrisme. Et il me dit, toi qui as ouvert une porte de plus que les autres, c'est-à-dire, il parlait du chakra sexuel. En fait, il me dit qu'il va m'apprendre les secrets du yoga et que ça s'apprend pas dans les livres. Il me dit, non, ça, c'est vraiment entre prof et élève que ça se transmet. Moi, je vais t'en apprendre les clés. Pour ouvrir le cœur, il faut faire monter l'énergie sexuelle. En alternance avec l'énergie mentale, in fine. Et je me dis, lui, il a l'intuition, il doit être passé par là, ok. Et puis, il a l'air de dire que je suis intelligente, il faut peut-être travailler en bas. Et alors, il commence à me parler de tantrisme et à me donner des exercices que je dois faire tous les jours. Il me dit, t'as qu'à imaginer ton ex, il faut que pour faire monter l'énergie sexuelle, il faut que tu te sentes excitée. Et puis après, nous, on discute de yoga, de maître indien, de balarishi. Il me dit, mais tiens, ça serait bien que tu fasses aussi du yoga, t'auras moins mal au dos, etc. Choisis un de mes profs, qui tu veux, je te le donne, quoi. En me disant qu'il faut pratiquer tous les jours. Ça commence à faire pas mal d'exercices pour moi parce que j'ai ma rééducation périnéale et ensuite abdominale, donc on fait du pilates. J'ai le yoga avec cette prof et j'ai les exercices d'énergie avec le leader que je dois faire tous les jours. Et je fais de temps en temps les exercices d'énergie qu'il me demande de faire pour faire monter l'énergie sexuelle. Je suis dans mon lit et j'imagine mon ex, mais bon, ça... Enfin, c'est pas trop mon truc, donc ça marche pas trop. Et je lui raconte, je lui dis, le yoga, ça se passe bien. J'apprends mon enchaînement par cœur. Sympa, mais bon, les exercices d'énergie, c'est compliqué quand même, ton truc. Il dit, c'est normal, t'es pas habitué, mais attends, je vais t'aider. Et c'est là qu'il commence à m'envoyer des sextos pour m'aider à faire monter cette énergie sexuelle. Et ça finit par marcher. Et puis, un peu plus tard, il me dit « Ah ben maintenant, c'est bien, t'avances bien. Quand tu vas faire tes exercices de yoga et tes salutations au soleil, tu vas faire des exercices de visualisation, parce qu'il en est question dans le tantrisme. Et puis tu vas me visualiser moi. » Il me dit « Ah, imagine que pendant que tu fais ton yoga, quand t'es en chien tête en bas, je suis derrière toi. » Et une fois suivante, il me dit « Alors, t'as bien imaginé que j'étais là pendant tes exercices de yoga ?» Et moi, je l'ai pas fait. Et je lui dis « Oui, oui. » Donc la fois suivante, je le fais. Et je vais le visualiser à chaque fois parce que bah, ça me revient. Et puis je lui fais confiance. Il m'a dit de le faire. Je l'écoute. D'ailleurs, il me parle souvent de confiance, il me dit souvent que je dois être docile parce que il va m'apprendre à chevaucher le tigre, pouvoir maîtriser ses désirs. Et pour maîtriser ses désirs, il faut d'abord être passé par les désirs. Donc je me dis que c'est dans cette optique-là. Et il me dit « Mais toi, tu sais très bien le faire parce que t'as ouvert la porte que les autres n'ont pas ouverte. » Du coup, je me force un petit peu à bien faire les choses. Un soir, on se fait une sortie, comme on a l'habitude de le faire avec mon mari. On prend une babysitter et puis on se fait un petit resto dans Paris, tranquille. On boit un verre et il y a le leader qui m'envoie des sextos. Et moi, je réponds vite fait, mais bon, je suis occupée avec mon mari. Et mon mari me dit « Ah, mais c'est lui qui t'écrit ?» Et je lui réponds « Bah oui, oui, c'est lui, tiens, regarde. » Et je lui montre le sexto. C'est un sexto très cru, enfin où il me traite de salope et il dit qu'il va me prendre comme une bête. Donc là, mon mari voit ça, il devient blême. Enfin, il comprend pas trop. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise en lui montrant, mais il me dit il m'a demandé de lui faire confiance et je lui fais totalement confiance. Donc, je comprends pas, mais voilà, on termine la soirée tranquillement. Mon mari ne confronte pas le prof parce que je lui dis... Mais j'avais pas le droit de te le montrer, je lui dis pas, j'ai envie de rentrer dans les services, quoi. Et il me dit « Ok ». Ce leader dit qu'il va bientôt venir à Paris, on a un groupe sur Telegram, parce que tout le groupe parle sur Telegram, et il y a un groupe yoga où il y a ma fameuse prof de yoga qui m'a donné, et lui dedans, avec moi. Et il dit « je monte... telle date à Paris, je vais voir tous mes élèves particuliers parisiens, et puis toi, tu continueras avec moi dorénavant. J'aurai plus affaire à son assistante, comme elle l'appelle, mais à lui en tant que prof concrètement, quoi, et physiquement. » Par message, il me dit que quand on se verra, il faudra sceller ce fameux pacte de confiance entre nous par l'intime. Je comprends pas trop si c'est une image ou de quoi il parle, mais en tout cas, il me dit que ces messages, ça nous permet de nous faire confiance les uns les autres et qu'il faudra le sceller en vrai, quoi. Ce fameux jour de cours particulier arrive, mon mari et moi, on l'a à la suite, il passe avant moi et moi après. Et moi, c'est très très bizarre parce qu'on comprend pas trop avec mon mari. Je stresse, mais j'ai l'impression que je vais passer un examen. Je me sens pas bien. Je stresse, quoi. Mais beaucoup. Quand mon tour arrive, je rentre dans la salle. Le leader voit que je suis très stressée, donc il commence à me faire une relaxation. Ok, donc je me détends. Il commence à me dire de faire 12 salutations au soleil, donc j'ai assez l'habitude de les faire puisque j'en fais tous les jours du coup. Et je commence à faire mes salutations au soleil. Là, je vois que il commence à se placer derrière moi et devant moi. Et au fur et à mesure où j'avance dans mes salutations au soleil, parce que c'est un enchaînement de postures, Je vois qu'il se rapproche de plus en plus de moi et jusqu'à le sentir sur mes fesses, quoi. Et je le sens coller à moi. Et quand je suis en posture de la montagne, il se colle à mon front devant moi. Et moi, je me dis à ce moment-là, c'est un test. Mon mari m'avait prévenu que pendant les salutations au soleil, parfois, il testait notre concentration. Pour être sûr qu'on soit dans le truc, qu'on perde pas le fil, qu'on ait le bon comptage dans la tête. Et du coup, moi, j'en démords pas. Je me dis, c'est un test. À un moment, il baisse carrément mon legging et ma culotte en même temps. Et il me pénètre. Là, je comprends pas. Je m'arrête et il me dit, continue. Et je me dis, ok, donc je continue mes salutations au soleil. Et d'ailleurs, il ne termine pas. Et voilà, après, il me fait faire une relaxation et il me propose un thé. Je dis oui. Il me demande des nouvelles de mon mari, je lui réponds. Du père de mon mari, je lui réponds. Et je comprends pas trop, je suis un peu sonnée, quoi. Et le cours se termine comme ça. Mon mari m'attend, lui, au café d'en bas. Et ouais, rapidement, on a une conversation sur ma séance. Et je lui dis à mon mari, mais tu crois que le leader m'a transmis quelque chose dans le cours ? Mon mari me dit, ah bon, mais pourquoi ? Et je lui dis, non, mais je sais pas, j'ai l'impression. Enfin, je me dis, mais je peux pas lui raconter ça. Et puis j'oublie, quoi. Le lendemain, il y a le leader qui m'envoie un message pour me demander comment je vais, comment je me sens, et je lui réponds que y a les images qui passent en boucle dans ma tête, comme des flashs, et je lui dis tout va bien. Un mois se passe avant le prochain cours. Pendant ce mois, la vie continue, je continue toujours mon yoga tous les jours, les SMS avec ce leader continuent. Je me confie toujours à lui. Et j'ai le deuxième cours particulier qui est calé parce qu'il monte une semaine par mois et ça tombe pendant la semaine de Navaratri. Alors on s'est réunis entre-temps avec tous les yogis justement pour débuter cette semaine et c'est une semaine de pureté, on va dire, où on doit manger que des aliments sattviques, donc pas d'aliments excitants comme le café, ni piquants. On doit pas manger de viande, on doit avoir une vie très pure, on doit pas avoir de rapport sexuel, on doit boire que de l'eau. C'est vraiment... Et puis il y a des méditations spécifiques tous les jours. Je suis à fond dans le yoga. Ce deuxième cours arrive et c'est Navaratri. Là, je stresse pas pour le cours. Il m'avait demandé de lui ramener mes godemichets. Et je m'en sers pas, mais je sais pas trop pourquoi il veut les voir, d'ailleurs. Je les ramène, je me dis, t'as ramené tes jouets ? Je lui dis oui. Il les prend en photo, et puis il les range. Pareil, on commence une relaxation, puis j'enchaîne mes salutations au soleil. Et là, la même chose se passe. Pareil, il me pénètre encore. Et cette fois, il se met devant moi aussi. Enfin, quand je vais remonter dans une position de face. Et il me dit, suce-moi. Et moi, je m'exécute. Il y a plusieurs pénétrations et il termine dans ma bouche. Alors, je suis pas étonnée, mais j'ai toujours aucun plaisir. Pour moi, c'est les exercices de yoga, en fait. Certainement pour faire monter le désir, mais bon... Moi, je suis concentrée sur mes salutations au soleil. D'ailleurs, à la fin, il me dit que je suis très forte, que je suis vraiment stable au fond, parce que j'ai pas moucheté, quoi. Et moi, je suis assez fière. Pff, peu de temps après, il nous dit que le maître indien Swami Ajay a dit à tous ses dévots d'arrêter de travailler et de se préparer parce que quelque chose de grave va arriver. On a déjà eu le premier confinement, donc le contexte actuel fait que moi, ça m'étonne pas. Apparemment, c'est quelque chose auquel on s'attend pas, peut-être une catastrophe naturelle, et il demande à tout le monde de prévoir 2 mois de stock alimentaire chez soi. Et ils font pareil dans l'ashram, donc ils l'appellent ashram, mais pas vraiment un ashram, c'est juste le lieu en province où on se rejoint tous les week-ends avec les yogis pour se voir et pour méditer, pour faire du yoga. Et du coup, mon mari est très insistant pour qu'on constitue ce stock alimentaire et qu'on le laisse dans le fameux ashram. Parce qu'au premier confinement, ils sont tous allés là-bas, pas nous. Et il aimerait bien y aller s'il y a un autre confinement. Je lui dis d'accord, d'accord. Donc on constitue un 500 euros de stock alimentaire. Peu de temps après, quand même, il y a une annonce du président. Là, mon mari me dit « Ouais, on va aller à l'ashram, comme tu me l'as promis. » Alors moi, je suis pas trop chaude à ce moment-là. Et surtout, là, on comprend qu'ils veulent pas fermer les écoles, apparemment. Donc je lui dis « Mais il y a aucune raison qu'on descende, parce que là, il y a l'école, tous les enfants ont leurs copains ici, moi j'ai toutes mes copines ici, ma famille. » Et puis mon mari insiste, il me dit « Ah, tu m'avais promis. » Et puis on s'engueule vraiment fort. Et j'essaye de chercher un compromis, et finalement je me dis « Bon, je regarde sur Airbnb. » Et je trouve des trucs sympas dans la ville même, en fait. Et je me dis « Bon, s'il veut vraiment descendre, on y va un week-end et puis moi je prends un Airbnb pour 1 mois de confinement avec les enfants. Comme ça, ça nous fait 1 mois de vacances. On est juste à côté de l'ashram, mais on n'est pas dans l'ashram avec tous ces célibataires. Et mon mari est super content, il retrouve tout son environnement de yogi. Puis moi, je me trouve un peu seule à devoir garder les enfants. Et je le vis pas très bien parce que déjà, je suis descendue pour lui faire plaisir. Je me sens un peu oubliée, donc on finit par s'engueuler. Et j'en profite pour aller chercher les clés du Airbnb en avance. Puis je suis tranquille, donc là je reçois un message du leader qui me dit « Ah mais ça va, faut pas se mettre dans des états comme ça, donne-moi l'adresse, je te rejoins. » Et du coup il vient, et bon je parle pas trop, il me dit « Bon déjà, détends-toi », donc il me fait faire une relaxation, je me sens un petit peu mieux, et puis là il recommence son truc, puis il me repénètre quoi. Et là il me dit « Monte ». Donc je monte à l'étage, il y a la salle de bain à droite, il me fait tourner à droite, et il me dit « Allez, abandonne-toi ». Et c'est vrai que moi, j'étais un peu crispée à chaque fois, en fait. J'étais comme pas là, parce que j'étais concentrée sur autre chose, sur mes salutations au soleil, et je ressens rien, quoi. Et là, j'ai comme un verrou qui saute à ce moment-là, et je souffle, je me relâche. Et là, il me pousse sur le lit, qui était à côté de la salle de bain. Et pareil, il termine dans ma bouche, et puis il me dit « Tiens, je te ramène à l'ashram ». Donc il me ramène en voiture. À partir à peu près de ce moment-là, dans ma tête, c'est mon amant. Toujours à sa demande, au dernier moment, il me dit « T'es dispo, j'arrive. Et puis si je suis pas dispo, je me rends dispo ». Du coup, on emménage dans le Airbnb. Et très vite, on a plus d'espace, il y a les joies de la province, ma deuxième fille qui faisait des crises d'angoisse le soir, pour aller à l'école, elle en fait plus parce que l'école est beaucoup plus petite, mes deux filles sont dans la même classe. Donc en gros, on a les joies de la province, on a un loyer un peu moins cher pour 2 fois plus de superficie, on est bien mieux, loin du stress parisien, et on décide de rester. Donc je demande au propriétaire du Airbnb si on peut faire un bail à long terme, et il est d'accord. C'est la période de Noël, et il me demande de venir à l'ashram, qu'il est tout seul là-bas. Donc je trouve un prétexte pour sortir, et je le rejoins. Il me dit « Habille-toi en yoga, on va faire du yoga ». Et à ce moment-là, moi, j'y crois pas. Je me dis, mais pourquoi il me dit qu'on va faire du yoga alors qu'on va pas faire du yoga? Enfin, je sais très bien qu'il va coucher avec moi, comme d'habitude. Parce qu'à chaque fois, même si je paye mon cours, il couche avec moi. Et donc, il me fait faire des exercices de yoga, il se passe la même chose, comme d'habitude, quoi. Et il me dit à la fin, merci d'être venu, je sais que tu fais ça pour moi. Et à ce moment-là, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai, j'avais pas trop envie de venir, et je le fais pour lui. Il y a une fois où il vient me chercher, encore, il me prévient 5 minutes avant, il arrive en voiture, il m'amène dans les bois, parce que généralement, les gens sont à l'ashram et mon mari est chez moi. Donc, il couche avec moi, et à la fin, il me dit « Ah, c'était violent !» Et j'ai une image qui me revient de lui qui me gifle, et je suis un peu perturbée dans ma tête, c'est un peu flou. Et je m'en rappelle parce qu'il me dit cette phrase-là. Et je bug un petit peu, je me dis mais ça s'est passé ou pas? Mais oui, parce qu'il m'a dit, je suis un peu sonnée. À chaque fois, j'ai l'impression que je suis pas trop là. Je sais ce qu'il va faire et je le laisse faire et je m'exécute. Et puis c'est tout. Et puis la vie reprend son cours, en fait. C'est comme des petits moments... Enfin, un peu hors norme, un peu ailleurs, quoi. Et peu de temps après, c'est assez bizarre, parce que j'ai des problèmes de santé qui commencent à apparaître. Et ça m'inquiète un peu. D'ailleurs, je contacte mon médecin traitant qui est à Paris pour lui en parler, parce que je trouve ça bizarre. J'arrive plus à penser. Je le dis à mon mari, ça m'inquiète énormément. Il me pose des questions, on va faire les courses. J'ai aucune prise de décision, je n'y arrive pas. Enfin là, je suis dans un état où je me reconnais pas, j'arrive pas à me poser, je suis stressée en permanence, je me sens vraiment pas bien et j'en fais part à mon médecin. Je lui demande carrément des antidépresseurs parce que j'ai vraiment très très peur d'une dépression. Et elle me dit, ah là là, attendez, vous venez d'accoucher, il n'y a pas longtemps, vous venez de déménager, il y a la crise sanitaire, on va commencer par de la vitamine D et du magnésium, et puis, bon, dans une semaine, si ça va pas mieux, vous me remettez un mail. Hein. Et je lui mets un mail une semaine après parce que ça va pas mieux, mais elle ne me rappelle pas et moi non plus. Parce qu'entre-temps, je vois le leader prof de yoga qui me repénètre et qui me dit après ça « Faut que tu prennes de l'ashwagandha. » Au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux avec mon mari parce qu'on fait du yoga ensemble, on côtoie les mêmes personnes qui sont les gens du yoga. On parle du prof de yoga et on échange sur des bouquins spirituels qu'on étudie tous ensemble. Voilà, ça nous rapproche. Et un soir, on fait un apéro en amoureux. Je suis un peu saoule. Et j'en profite pour lui faire comprendre que je couche avec le fameux prof de yoga. Là, mon mari, il comprend pas trop. Au début, il me dit « Ah bon, mais pourquoi il ferait ça ?» Et je lui dis « Ah, mais il doit faire ça parce que c'était pour sauver notre couple et peut-être que ça a marché. Regarde, on est toujours ensemble et ça doit être pour ça. » Et après, moi, je lui dis « Ouais, mais c'est aussi pour lui parce qu'un jour, j'ai voulu lui payer le cours de yoga et il m'a dit « Garde ton argent parce que je prends aussi. » Et là, mon mari me revient vers moi en me disant « Mais non, mais j'ai vu le sexto en même temps. » Et là commence un doute, en fait. Et il me dit « De toute façon, ça va mieux entre nous. Tu peux arrêter de le voir maintenant. » Et je lui dis « Bah, t'as raison. De toute façon, j'en ai plus envie. J'en ai pas envie. » Et du coup, je lui envoie un message au prof de yoga pour lui dire « Je pense qu'il serait temps d'arrêter de se voir comme ça. J'ai plus envie. » Et il me répond « C'est encore toi qui décides. » Ce qui m'étonne beaucoup. Franchement, je comprends pas trop, là. Mais il insiste pour qu'on se voit. Encore. Et là, je me dis, faut que je l'obéisse comme les autres. On va dans la forêt, mais cette fois, je préviens mon mari. Le temps passe et là, je tombe malade, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une sinusite. J'ai super mal au crâne, j'ai super mal... au sinus, j'ai carrément un petit peu de fièvre et des courbatures partout. Je commence à avoir très très mal au dos. Et je suis vraiment pas bien. Je prends rendez-vous chez le médecin. Le médecin comprend pas. Il me pose plein de questions. Il suppose un rhumatisme, mais bon, je suis un peu jeune, une dépression, mais bon, bizarre. En tout cas, c'est pas normal qu'un rhume m'assomme autant, et puis ces douleurs lombaires et au dos. Enfin, j'ai accouché il y a un an maintenant, et c'est étrange pour le médecin. Il me prescrit plein de tests sanguins pour savoir ce que j'ai. Je vais faire ces tests, et il s'avère que tout va bien. Enfin, tout est nickel. Et pendant cette période où je suis claquée, où on reste à la maison avec mon mari, on regarde une nouvelle série sur la 5 en thérapie. On s'enchaîne les épisodes un à un parce que les enfants sont à l'école, nous on est peinards à la maison, aucun de nous deux ne bosse. Et il y a une scène, c'est l'épisode où Ariane, la patiente, raconte à son psy qu'elle a couché avec le meilleur ami de son père, chez qui elle avait été passer les vacances, qu'elle s'est sentie mal parce qu'elle s'est un peu sentie utilisée alors qu'elle avait confiance en lui. Et vraiment, je comprends pas. Il se passe un truc dans mon corps. Je commence à avoir chaud. J'ai les larmes aux yeux. Je tremble un peu. J'ai l'impression que j'ai des vertiges. Je suis anxieuse et puis j'ai le nom de ce prof de yoga qui m'arrive en tête et je comprends pas. Et la meuf, elle parle limite d'un viol. Et moi, j'ai ces scènes ces flashs là avec le prof de yoga qui me reviennent et j'en parle à mon mari. Et là, il tique un peu. Il me dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai du mal à te croire qu'il se passe ça déjà. Enfin, j'ai pas de preuves, j'ai bien vu qu'il venait te chercher et que tu partais, mais j'ai pas de preuves, j'ai du mal vraiment à le croire. Enfin, c'est pas du tout le personnage que je connais. Et du coup, je me rappelle que j'ai pris des screenshots, des sextos de l'époque et des messages qu'on s'envoyait à l'époque. Je commence à tout relire. Et au fur et à mesure, je les montre à mon mari qui change complètement de tête et qui me dit « Mais chérie... il t'a manipulé là, mais qu'est-ce que c'est? Il te parle de tantrisme, mais c'est pas du tout ça le tantrisme. » Et il me dit, mais t'as raconté de la merde là. Et il commence à se rendre compte que c'est grave. Et du coup, je me sens vraiment, vraiment pas bien là, parce que à ce moment-là, à force d'en parler, on réalise tous les deux. Et j'appelle une association de dérive sectaire. Je mets un peu de temps à le réaliser, mais je comprends très vite que c'est un viol. Et là, on se refait toute l'histoire, en fait, de zéro avec mon mari et avec les deux versions. J'apprends qu'il disait des choses sur moi qui sont pas vraies. Et en fait, on se rend compte qu'on n'avait pas de communication entre nous et que c'est ça qui tenait le truc. Donc on se rend compte que c'est une secte et moi, je me rends compte que, en fait, quand j'ai rencontré mon mari, il était déjà totalement sous emprise. Je suis retournée voir le médecin pour lui dire que je pensais que j'avais somatisé. Et clairement, je me suis rendu compte que mon corps me parlait et moi, j'ai pas compris. En fait, il essayait de me dire des choses qui sont pas arrivées à mon conscient. Et heureusement que j'ai somatisé, heureusement que j'en ai parlé à mon mari, parce qu'au final, on a coupé tous les ponts avec ces gens-là. Et lui, ça y est, c'est fini, enfin... Le voile est déchiré. Et aujourd'hui encore, ça le trouble, hein, parce que c'était son père spirituel. Et moi, je lui dis encore, mais non, mais tu te rends pas compte qu'il ment, en fait, il mentait. Et je me suis rendu compte que, ouais, j'étais certainement en dissociation lors de ces entrevues, parce que pour moi, c'était un peu flou. J'étais pas vraiment là. En tout cas, je ressentais pas grand-chose. Avec mon mari, ça nous a renforcé cette histoire. Et là, mon mari m'a dit, on va se concentrer sur nous, sur notre famille. Et aujourd'hui, je suis quand même contente que ça soit terminé.
Vous venez d'écouter Transfert épisode 141. L'histoire d'Agathe a été recueillie par Sarah Koskevic. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.